Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Ping-pong.
Il est de retour. Henri Duflo, le directeur du Bureau des Légendes, revient pour une saison 2. Les légendes, ce sont les identités que les agents du renseignement endossent lors de longues missions. Et lui, dans la vie, en a endossé plusieurs. Étameur, garçon de bureau, gardien de piscine, il a même livré le journal à Jean-Paul Sartre. Puis, s'est retrouvé en cours d'art dramatique par amour pour une fille. Celui qui restera Dada pour Robert Guédiguian, avec qui il tourne depuis 30 ans, est sidérant, selon lui. Il est là, il fait le con, tu dis moteur, il pleure. Chez Cédric Clapiche, ce sera une anti-définition. Dire que Daroussin est un rêveur, c'est aussi réducteur que de dire que Bacri est un râleur. Pourtant, il se dit fondamentalement rêvasseur et aime donner réalité à ses rêvasseries en composant ses personnages. Second et premier rôle, chez les Bacri Jaoui ou chez Guillaume Niclou, ce qui compte avant tout pour lui, c'est de continuer son métier sans rien céder de ses idéaux. Jean-Pierre Daroussin, vous êtes venu sous quelle légende ce soir ?
Je suis venu sans aucune... Je ne suis pas du tout clandestin, je suis à visage découvert, je tombe le masque et j'essaie d'être le plus proche de moi-même.
Vous avez tombé la cravate aussi d'Henri Duflo.
Oui, cette cravate, elle est, c'est une identité du personnage qui a cette fantaisie-là d'avoir des cravates insensées, originales, qui sont pour donner un petit peu de fantaisie dans un monde qui est extrêmement rigide et presque militaire quand même. Et lui, il essaye de donner un peu d'enchantement dans son bureau pour donner de la bonne humeur à ses collègues et à ses ouailles, quoi, parce qu'il est tous ses employés de bureau qui sont sous ses ordres. Et voilà, il a la responsabilité de faire en sorte qu'ils soient quand même heureux de travailler là, ce qu'ils sont, parce que c'est un métier assez passionnant.
Est un bad boy de Marseille, comme dans la chanson des groupes de rap IAM et Funky Family, dont il a jadis réalisé le clip. Un mauvais garçon, issu de la classe laborieuse, réputée dangereuse, et adepte des mauvais genres, musique punk et films d'action. Ainsi, après son premier film, Une minute de silence, avec Nid de guêpe, il se fait un nom et attire l'attention de l'acteur badass Bruce Willis, qui l'invite à l'autre bout de la French Connection. Et puis, après un film de guerre, le biopic de Clo-Clo et une comédie, le voici de retour sur le vieux port, dans la peau d'un showrunner dessalé pour une série peuplée de canailles et de femmes fatales, Marseille, la série de Netflix avec Depardieu, Magimel, Géraldine Pellas et Nadia Farès, l'histoire d'une lutte au couteau pour l'hôtel de ville, diffusé depuis hier sur le net et la semaine prochaine sur TF1. Le bad boy en chef, c'est donc Florent Emilio Siri. Mais Florent Emilio Siri, après votre connexion à Épisode avec le milieu du rap marseillais, il y a eu IAM mais aussi Booga, les Psychiatres de la Rime. Vous avez réalisé d'ailleurs plusieurs clips pendant les années 90 pour tous ces groupes. Est-ce que vous écoutez toujours du rap marseillais?
Ah là, j'étais obligé d'en écouter là. Par exemple, pour tourner dans cette cité, Félix Piat, on a tourné une partie de la série. J'ai reconnecté avec mes amis marseillais parce que je tenais vraiment à, dans cette série, à montrer aussi les quartiers. Et du coup, mes amis m'ont permis d'aller tourner dans cette cité, Félix Piat. C'est pas toujours facile de tourner dans ce genre de cité, dans les quartiers nord.
On dit qu'il faut des fixeurs.
Ouais. Et là, on a été très bien accueillis. Et puis, alors, moi, j'aime bien mélanger les acteurs et les non-acteurs. Donc, j'ai pris des petits jeunes de cette cité aussi, et de Félix Piat, et le groupe de rap de Félix Piat, qui s'appelle Guiri Mafia. Voilà, qui ont fait quelques clips qu'on voit un peu sur YouTube.
Et... Allusion à Guérini?
Non, Guiri Mafia, il faut le
récupérer.
Voilà,
inciter,
c'est des Comoriens. Ah, vous les connaissez.
Ouais.
Et donc, j'ai pris quelques morceaux qui leur appartenaient. Voilà.
Alors, vous l'aurez compris, ce soir, la table de ping-pong est en forme d'écran avec deux séries. D'un côté Marseille, de l'autre le Bureau des Légendes. On va commencer par une remise à niveau du Bureau des Légendes avant la saison 2.
Je sais pas si vous connaissez Malotru, notre clandestin qui vient de finir sa mission en Syrie.
Colonel.
Comment vous vous appeliez là-bas?
Paul Lefebvre.
Et donc vous avez été amené à rompre certaines relations?
Vous savez très bien de qui on parle.
Madame Nadia El-Mansour.
Tout va bien, tu me fais pas le syndrome du clandestin.
C'est quoi ça, le syndrome du clandestin?
Ça nous met tous en danger parce qu'on ne veut plus de sa vraie vie.
Tu es à Paris?
Ouais.
Moi aussi.
Il se passe quelque chose?
Quand les islamistes détiennent un agent comme Cyclone, ils le négocient très cher.
On a Cyclone. Ouais, on a Cyclone.
Au démantèlement de l'arsenal nucléaire iranien et à la jeunesse.
J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions.
Je vais m'enseigner pour savoir qu'est-ce que c'est que cette enculerie. Ils veulent savoir si on sait, et si on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fera quand on le saura. On nous apprend une chose, c'est qu'ils ne savent pas que l'on sait.
L'Iran, la Syrie, une affaire de taupe dans les services de renseignement. Voilà quelques-uns des ingrédients de cette saison 2 pour le Bureau des Légendes. Éric Rochon, le créateur de la série, parle d'une partie d'échec pour cette nouvelle saison, sans tout révéler de cet échiquier. Est-ce que vous accepteriez de nous dire, Jean-Pierre Daroussin, quel pion joue votre personnage d'Henri Duflo, directeur du Bureau des Légendes, et quelle est sa stratégie?
Je dirais que mon personnage, ce serait la tour. C'est-à-dire qu'il doit rester le plus possible disponible et qu'il intervient au dernier moment pour essayer de soutenir l'action de des différents pions et des différents soldats qui sont partis en mission. Non, la stratégie surtout dans cette saison 2, on sait à la fin de la saison 1 qu'il y a eu et qu'il y a une taupe parmi le service à la DGSE, il y a un agent double. Je le comprends, je m'en aperçois, et en tant que responsable de ce service, évidemment, je commence à devenir un petit peu paranoïaque. Et je sais qu'il faut soupçonner tout le monde, que ce genre de travail repose sur la confiance, et que la loyauté est la valeur la plus importante, et que je suis le garant de l'éthique du service. Donc là, cette éthique est mise à mal, puisqu'on est profondément trahi, on le sait. On voit à la fin de la saison 1 que le personnage central, l'agent que l'on suit depuis le début,
Malotru,
qui est Guillaume de Bailly, Paul Lefebvre, suivant les différentes identités.
Et Mathieu Kassovitz.
Là, et en fait, Mathieu Kassovitz à l'écran. On sait qu'il travaille pour la CIA. En tous les cas, qu'il a décidé de se servir de la CIA pour obtenir des tractations dans la libération de son amour, de sa fiancée, de Nadia El-Mansour. Et que donc par amour, lui qui est un personnage impénétrable et qui essaie de vivre le plus loin de ses émotions, ne pas être parasité par ses émotions, le voilà soudain qui est le plus sentimental de nous tous et qui va être il va sombrer dans des affres et dans des contradictions et dans une espèce d'autodestruction parce qu'il contrevient à l'éthique fondamentale de ce que doit être un agent au service de son pays.
Florent Emilio Siri, il y a des émotions très fortes qui parasitent chacun des personnages de la série dont vous avez la responsabilité. Marseille, vous êtes à la fois le showrunner, donc le grand horloger de cette série diffusée actuellement sur Netflix et bientôt sur TF1. Vous êtes aussi le réalisateur de plusieurs épisodes de cette saison 1. Il n'y a pas de taupe, mais il y a un traître, il y a une trahison à l'orée de cette histoire entre les deux adversaires que sont Gérard Depardieu, qui joue le maire de Marseille installé depuis 25 ans, et puis son jeune et fringant adjoint qui décide de lui griller la politesse et de lui planter un couteau dans le dos. Mais ce qui est intéressant, et vous en disiez un mot il y a quelques minutes, il y a non seulement deux adversaires, mais il y a aussi deux profils d'une ville dans cette série. On le voit ne serait-ce que dans le logo avec le M fendu en deux, le M de Marseille. Vous êtes fils de mineur lorrain, vous avez été élevé dans une cité ouvrière. Vous revendiquez le fait que vous mettez dans chacun de vos films toujours une dimension sociale, en particulier depuis le premier, hein, Une minute de silence. En quoi, dans cette série, votre regard sur Marseille, il a été aimanté par ces enjeux, par ces préoccupations, cette réalité sociale?
Mais moi, je m'attelle toujours à ce qui est le plus difficile pour moi. Et ce que je voulais réussir, c'est vraiment la cité, de montrer ces quartiers, en fait, ces quartiers nord. Et c'est vrai que j'aime bien, il y avait une espèce de grand écart là qui m'intéressait entre espèce de grande bourgeoisie marseillaise et puis parce que Marseille c'est ça et c'est ce qui m'intéressait, c'est vous avez à la fois les quartiers nord, vous avez les quartiers bourgeois, vous avez un côté industriel, moi je suis très sensible à ce côté-là aussi. Et puis il y a le nouveau Marseille qui est en train de naître comme ça. Et en fait, tout est à l'intérieur de la ville, puisque ce qui fait vraiment la différence à Marseille, c'est que les quartiers sont au centre de la ville. Donc tout le monde se croise, tout le monde se voit, tout le monde est là. Ils sont pas en périphérie, c'est pas une espèce de ghetto extérieur comme
ça. C'était une façon de filmer différente, du coup, quand vous approchez.
Tout est lié, en fait, tout se relie. Tout se relie, en fait, et c'est ce qui est intéressant dans cette histoire qu'a écrite et créée Dan Frank, c'est que tous ces univers, on voit qu'ils se rejoignent à un moment ou un autre, parce que la politique, c'est aussi l'espèce de, on voit, il y a des épisodes qui sont très intéressants pour ça. Par exemple, l'épisode 6, où on voit une élection, comment ça se passe un peu à Marseille, et comment les politiciens vont dans les quartiers, comment ils essayent, à coup de, je vais t'acheter une machine à laver, à la dame du troisième étage pour qu'elle vote pour lui, Il y a des choses comme ça très croustillantes, très intéressantes. Et je trouvais que c'était important de réussir ces quartiers, que je connais bien, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai fait des clips de rap dans les années 90. Donc, ce sont des endroits que je connais bien, et il y a plein de gens qui vivent là-bas que je connais.
Jean-Pierre Darroussin, vous pouvez dire que vous connaissez bien Marseille aussi. En 30 ans de film avec Robert Guédiquian, vous faites partie du gang de l'Estac, comme on l'appelle. Pour vous, comment ça a évolué d'ailleurs Marseille et son image? Qu'est-ce que vous en retenez dans les films de Robert Guédiquian depuis ces 30 ans de film ensemble?
Ce qui est curieux, c'est que la plupart des décors dans lesquels on a tourné avec Robert sont des décors... Sans le vouloir, les films sont devenus des documentaires parce que ce sont des endroits qui ont disparu. Pour beaucoup. C'est pas toujours le cas, mais souvent, que ça soit les cimenteries à l'Estac, la façon dont sont les plages, il y a beaucoup de choses qui sont transformées, le port, la Joliette, tout ça, enfin, c'est beaucoup transformé. Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, je connais bien. J'étais chauffeur de taxi, finalement, dans les villes à Marseille. C'est beaucoup plus dur qu'à Paris. Il y a des milliers de rues. C'est une ville très, très étendue. Ça fait quand même quasiment 35 kilomètres du nord au sud et sur une quinzaine de kilomètres de large. C'est beaucoup plus grand que Paris. Il y a une centaine, 101 quartiers. Qui sont vraiment alors là tout se passait quand même au centre, ça converge vers le centre. Il y a quand même il y a des gens qui sont au Merlan ou qui sont à Saint-Henri qui sont jamais passés sur la Canebière, hein. Non mais c'est qui restent vraiment qui vivent en autarcie dans les petits quartiers, dans les cafés, ou à jouer au loto, à faire le tiercé. Et c'est vrai que les cités, alors bon, c'est encore d'autres univers qui vivent au rythme des vagues d'immigration, et c'est pas toujours la même histoire, c'est pas toujours la même identité.
Mais il y a cette idée du tissu social aussi, je crois que vous aimiez là-bas, ces lieux parfois de résistance que vous retrouviez, et de micro-société.
Moi, j'y retourne régulièrement, j'y vais régulièrement, j'y vis en partie. C'est une ville qui, je peux pas dire, ça bouge tous les 2 ans. On a une sensation, et en ce moment, par exemple, j'ai l'impression que la ville est assez tolérante avec ses habitants, qu'il y a une espèce de une douceur de vivre qui est revenue. Il y a quelque chose d'assez agréable dans les quartiers, tout ça. Il y a 2 ans, c'était le contraire. Les gens étaient très agressifs dans les cafés, tout ça. Il y a quelque chose, ville qui bouge. Vraiment, on a vraiment du mal à la seule chose qu'on peut dire vraiment, qui est une constante, je trouve, à Marseille, c'est que les gens, quand ils sont adoptés, quand ils viennent vivre à Marseille et qu'ils se sentent être natifs de Marseille, très vite se sentent marseillais et deviennent nationalistes, d'une certaine façon. On se sent marseillais très très rapidement.
On tombe amoureux de cette ville. Moi, je suis tombé amoureux de cette ville, vraiment.
Tu sais, monsieur le maire, que j'ai grandi dans vos pas. Mais à un moment, il faut quitter le nid.
Vengeance waits. so it begins.
J'avais tout organisé. J'ai trouvé l'homme de paille. Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi.
Quand même pas m'être trompé à ce point.
Il est évident que vous représentez le passé et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains. Et tu finiras seul, tout seul, sans rien.
Marseille, actuellement disponible sur Netflix, sur les internets, et bientôt le 12 mai en diffusion sur TF1. Florian Emilio Siri, le producteur de cette série, Pascal Breton, annonçait en 2014, quand on a commencé à parler de cette première série de Netflix en France, il annonçait une série entièrement produite en France et qui offrirait un point de vue typiquement français sur cette réalité politique, sur ces affaires familiales qui sont au cœur de cette saison 1. Aujourd'hui, il y a une pluie de critiques assez critiques, disons-le, autour de la série. Pascal Breton préfère parler d'une série généraliste, transgressive et moins française que d'autres séries. Je trouve que ça me donne envie de vous poser la question à vous.
C'est le
parce
producteur.
Voilà, c'est le producteur Pascal Breton. Vous êtes à la fois américain dans vos admirations. Il y a Scorsese dans votre panthéon. Vous êtes américain aussi dans votre carrière. Vous avez fait ce film Otage avec Bruce Willis aux États-Unis. Et puis, vous êtes aussi très français. Vous avez été l'élève, notamment, d'Éric Rohmer. Quelle est la griffe française, au sens le plus noble, au sens peut-être le plus audacieux du terme, dans cette série?
C'est difficile de répondre à cette question. Moi, quand ils sont venus me voir, déjà, c'est Pascal Breton qui avait eu l'idée de faire cette série à Marseille. Et c'est Dan Franck qui donc a écrit et créé la série. Je pense que Netflix avait besoin, ou les Américains ont besoin de quelqu'un qui puisse communiquer avec eux, qui ait un peu d'expérience. Parce qu'ils ont un mode de travail que j'aime beaucoup, qui est sur à la fois basé sur la confiance, mais on pousse les choses vraiment très très haut, on tire le projet vers le haut. Mais ça passe beaucoup par la communication. C'est pas une manière de faire du cinéma en disant non, mais c'est moi qui sais et vous restez là et on ne discute pas, c'est moi qui suis. Il y a une espèce de communication comme ça qui est assez formidable. Et pour moi. Sincèrement, ce qui m'a intéressé, et c'est pour ça que j'ai fait la série, et sinon je l'aurais pas faite, c'est que je rêvais de travailler avec Gérard Depardieu. Je veux dire, je suis encore un jeune metteur en scène, mais voilà, c'est pour moi, c'est le plus grand acteur français.
Et où est-ce que vous l'avez entraîné? Parce que vous avez eu cet adage, cette phrase définitive et nietzschéenne. Un jour, vous avez dit « Truffaut est mort ». Alors, Depardieu l'a joué avec Truffaut.
Truffaut est mort. C'est pas moi qui ai dit ça. J'adore Truffaut.
Du coup, il fallait.
Non, c'est Nietzsche, effectivement.
Ah ouais, c'est Nietzsche, ouais. C'est pas moi.
Vous l'avez entraîné où, alors, puisque vous l'entraînez pas dans le dernier métro, votre Depardieu à vous?
Ah, mon Depardieu. Ce que j'en ai fait. Ce qui était formidable dans l'écriture de Dan Franck, c'est que c'était pas le cliché du politicien, dégueulasse, à magouille. C'était justement quelqu'un de bien, qui aime profondément sa ville, qui aime profondément sa famille, mais autour de lui, bon, voilà, tout ça c'est un peu différent. C'est pour ça que j'ai choisi le deuxième acteur dont je voulais parler, qui est Benoît Magimel, parce que ces deux-là, je les ai jamais vus au cinéma, et je trouvais que c'était une superbe occasion de les réunir.
Jamais ensemble, hein, parce que Magimel, il fait partie de presque tous vos films.
Oui, non, mais ce que je veux dire, voilà, au cinéma, c'est qu'on les a jamais vus ensemble, Depardieu et Magimel. Et moi, je rêvais de les réunir, et j'ai un peu sauté sur l'occasion. Et en plus, Marseille, parce que voilà, Marseille, c'est une ville à filmer avec une lumière incroyable, et c'est un personnage, Marseille. Et puis, pour raconter, moi, ce que j'aime dans les séries, sont les personnages, parce que moi j'adore le cinéma des années 60-70, parce que c'était vraiment un cinéma de personnages, même si visuellement ce sont des œuvres toujours très intéressantes. Et je trouve que dans le cinéma d'aujourd'hui, on a perdu un peu tout ça, parce qu'on sacrifie beaucoup de choses sur l'autel du rythme. Et je trouvais que faire une série, de pouvoir travailler les arcs dramatiques des personnages sur une longueur, ça pouvait être un truc assez surprenant et assez intéressant.
Jean-Pierre Darroussin, vous êtes sériphage, sériphile?
Non, pas du tout. Je n'ai pas assez de temps pour consommer de la série. C'est parce que c'est, puisqu'on est dans la phagie, c'est assez chronophage, on va dire. Donc c'est.
Ouais, c'est vrai.
C'est Depardieu, en revanche, qui dit qu'il regarde plus que des séries et qu'il va même presque plus au cinéma.
Mais je peux comprendre, hein, vraiment. Mais enfin, moi, j'arrive pas. à être assidu, j'arrive pas à être pris totalement. Pourtant, je reconnais que justement en travaillant sur une série que le plaisir, il est que l'écriture prend le pouvoir à travers la série par rapport au cinéma, où le cinéma est quand même, c'est quand même l'œuvre d'un metteur en scène, c'est plus la mise en scène qui est en jeu, je trouve, dans le cinéma. Conduire quelque chose sur une heure et demie, une heure cinquante, sans avoir l'action qui est tout le temps, les rebondissements, l'action qui est relancée parce que d'un seul coup on s'intéresse à un autre personnage, tout ça, c'est plus difficile à écrire pour le cinéma, je trouve que l'œuvre d'une série, sur la longueur, sur le temps, il y a toujours quelque chose qui est relancé. Donc c'est un bonheur pour les écrivains. Enfin, je veux dire,
c'est romanesque comme entreprise.
Oui, on est vraiment dans voilà, on est chez Balzac, on peut d'un seul coup s'engouffrer dans des univers très très denses, très énormes, et c'est ça le plaisir. Et donc le pouvoir est complètement au scénariste et donc aussi au personnage. C'est vrai. Que le couple scénariste acteur dans la série est quelque chose de vraiment qui est au centre de la qualité d'une série.
Je vais m'enseigner pour savoir qu'est-ce que c'est que cette enculerie. Ils veulent savoir si on sait, et si on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fera quand on le saura. Ça nous apprend une chose, c'est qu'ils ne savent pas que l'on sait.
Je ne résiste pas à réécouter cette réplique. Vous êtes dans la saison 2 du Bureau des Légendes, premier épisode. Il y a quelque chose de comique, effectivement, dans ce personnage, pourtant très sérieux, du directeur du Bureau des Légendes, Jean-Pierre Darroussin, que vous incarnez. Et justement, au début de votre carrière au cinéma, on vous a proposé de jouer pleinement cette carte-là, de faire un cycle de films comiques, d'être une sorte de nouveau Pierre Richard. Vous avez refusé. Vous êtes d'ailleurs, du coup, embarqué dans un certain nombre d'années de galères. En quoi c'était fondateur pour vous de pas accepter de faire seulement le pitre?
Ce qui est fondateur, c'est aussi d'avoir l'esprit de contradiction. C'est surtout ça qui est fondateur. Hein. C'est de pas vouloir suivre la trace des autres. C'est ne pas vouloir vivre une vie qui est tracée par quelqu'un d'autre. Donc c'est se lâcher dans la nature sans idée préconçue, sans a priori, et moi j'avais pas beaucoup de fantasmes, j'ai pas rêvé de devenir une vedette ni quoi que ce soit, donc la façon dont est organisé le marché, l'industrie du cinéma parfois peut avoir envie comme ça d'exploiter une image de vous, et moi je me sentais pas de rentrer dans ce code-là, donc j'avais envie de travailler avec mes copains, puis basta, quoi, c'est tout. J'avais pas envie de devenir une vedette, voilà.
Florian Emilio Siri, vous non plus. Vous n'êtes pas avare en contradiction, parce qu'entre votre premier et votre deuxième film, Nid Guêpe, qui vous rend célèbre, film d'action très tendu, très maîtrisé, qui vous entraîne sur un autre film d'action avec Bruce Willis aux États-Unis. Après, vous revenez, vous faites L'ennemi intime, film de guerre, mais qui aussi attrape la question des non-dits, des blessures de l'histoire coloniale. Vous vous mettez au biopic avec Clo-Clo, ensuite à la comédie. Voilà. Quelles sont les contradictions auxquelles vous avez eu affaire sur cette série Marseille? Et peut-être, à l'instar de ce que disait Jean-Pierre Darroussin à l'instant, qu'est-ce que vous avez refusé sur cette série? Vous êtes interdit, peut-être?
Non, je me suis rien interdit. Vous savez, moi, j'aime le cinéma dans toute sa largeur. Donc voilà, j'ai grandi...
En cinémascope.
En cinémascope, j'aime Berman, j'aime Scorsese, j'aime Antonioni, j'aime Spielberg, j'aime cette largeur. Moi, je suis un visuel. J'essaye de renouer avec l'essence de cet art, qui est un art essentiellement visuel. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'explorer. Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait un film social avec Une minute de silence, un film d'action, après un film de guerre sur la guerre d'Algérie, un thriller, Clo-Clo, une comédie, et j'aime explorer. Et la série, justement, ce que je voulais amener à la série, que je trouve formidable sur l'écriture, le rapport des scénaristes, avec l'histoire et les personnages, mais moi, ce que j'avais envie d'amener, c'est de raconter visuellement les choses, parce que c'est quelque chose que je défends beaucoup, parce que je trouve que la mise en scène, on n'en parle plus beaucoup, je trouve qu'on ne défend pas, c'est pour ça que quand vous m'avez dit Truffaut est mort, pour moi, c'est pas possible, parce que, voilà, c'était un grand visuel, et moi, je suis de l'école de Renoir, de Truffaut, de Hitchcock, de Ford, voilà, et c'est ce que je voulais amener à la série en toute humilité, mais essayer de raconter aussi les choses visuellement et pas que par des dialogues, pas que filmer des acteurs et avec des dialogues, voilà. Ça.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime quand la radio est visuelle.
À suivre, des bad boys et des dockers, c'est toujours à Marseille, bien sûr, avec nos invités Florent Emilio Siri et Jean-Pierre Darroussin, ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Zoé Svez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde,
bonsoir Zoé.
Zoé, vous consacrez ce soir votre dossier à cette question qui taraude aujourd'hui les acteurs du marché du livre. La FNAC va-t-elle rester le plus important libraire de France ? Est-ce qu'elle restera une librairie tout court ? La question se pose alors que, au terme d'un feuilleton, d'une série de plusieurs semaines, la FNAC a racheté le géant de l'électroménager Darty, à qui il a cédé ensuite la gestion de son service après-vente.
Oui, alors la FNAC, est-ce qu'elle peut vraiment garder le livre au cœur de son métier alors qu'elle vient d'amorcer un énorme virage vers, clairement, l'électroménager. La FNAC, donc la Fédération Nationale d'Achat des Cadres, c'est ça son vrai nom, qui a été créée en 54. Il faut savoir que cette FNAC, c'est aujourd'hui le premier libraire de France, avec plus d'une centaine de magasins dans toute la France. Elle représente 15% du marché du livre à elle toute seule. Le livre pèse lui-même 20% dans son chiffre d'affaires. Il faut savoir que la question donc se pose, notamment parce que toutes les autres grandes chaînes qui vendaient du livre dans toute la France, et notamment Virgin, mais aussi Librairie Chapitre, ont aujourd'hui disparu, restent essentiellement Cultura et les espaces Leclerc.
Alors qu'on voit librairies indépendantes.
Je parle des grandes surfaces évidemment. La question se pose, sachant qu'il y a la concurrence, mais non très vive, figurez-vous, à la fois d'Amazon et des librairies indépendantes. Est-ce que la FNAC va rester une librairie ? En tout cas, la question s'est posée pour le sociologue Vincent Chabot. Il travaille à l'université Paris Descartes où il est enseignant-chercheur. Il connaît très bien la FNAC puisqu'il lui a consacré sa thèse, publiée ensuite aux presses universitaires de France.
Alors, il y a deux réponses à cette question, si vous voulez. Il y a une réponse optimiste. La FNAC va toujours maintenir son image culturelle par le livre. Le livre va toujours, à la FNAC, servir, si vous voulez, de caution intellectuelle et culturelle à l'image de l'entreprise. Il y a un scénario plus négatif. Le livre ou la librairie va être confronté à des normes de travail et des normes professionnelles en termes d'achat, en termes de gestion, plus rationnel, plus typique de la grande distribution des produits électroménagers, et le livre, pour le coup, aurait peut-être du côté des éditeurs indépendants notamment, aurait plus de difficultés à trouver sa place dans ce nouvel univers.
Et cette thèse de l'abandon ou d'un repositionnement de la FNAC en matière de livres, Zoé, peu y croit vraiment, mais certains entretiennent le doute.
Oui, puisqu'il y a pas mal d'arguments. L'un des premiers, c'est aussi de regarder un petit peu en parallèle ce qui s'est passé notamment aux États-Unis où toutes les grandes chaînes du livre ont fini par fermer, soit rachetées dans le même type de conséquences, soit mortes de leur belle mort, sous évidemment le poids croissant d'Amazon. Vincent Chabot, dans sa tribune publiée dans Le Monde aujourd'hui, donc sur cette question, le rappelle, ces dernières années, la FNAC, par ailleurs, a déjà changé sa gestion du livre, puisque avant, c'était les libraires de la FNAC qui choisissaient ce qu'ils allaient vendre dans leur rayon, et que déjà, sous le coup de gestion plus rationnelle, ce n'est plus le cas aujourd'hui, on précommande pour eux ce qu'ils seront chargés, en fait, de défendre, avec évidemment une part de plus en plus importante faite aux best-sellers. Certains éditeurs s'en sont notamment plaints ces dernières années, notamment dans les FNAC de province. Alors j'ai demandé son regard sur l'évolution de la FNAC à l'un de ses principaux concurrents, justement Mathieu de Montchalin. Il dirige la librairie de l'Armitière à Rouen et il est le président du syndicat de la librairie indépendante qui ne s'est jamais aussi bien porté en France.
Je ne peux pas inventer la stratégie de la FNAC à la place de la FNAC. Je pense qu'on verra bien ce que la FNAC décide de faire, mais pour être tout à fait franc, là vous m'interrogez, je suis en Chine à un congrès international de libraires et je peux vous dire que dans tous les pays du monde, tous les libraires se recentrent sur l'essentiel de leur métier, c'est-à-dire le livre, le conseil au lecteur, le choix, la personnalisation et tout ça, ça me semble de plus en plus loin de la stratégie de la FNAC. Je pense qu'ils vont beaucoup communiquer, et d'ailleurs ils ont commencé à le faire, sur le fait que le livre restait leur cœur de métier, cette bonne guerre. Évidemment, ce rachat va déplacer le centre de gravité de la FNAC. Pour autant, je ne construis pas ma stratégie sur ce que font les concurrents, que ce soit Amazon ou que ce soit la FNAC. La librairie indépendante, en 2015, elle a progressé deux fois plus vite que le marché du livre. Elle pèse 43% du marché du livre. C'est un cas unique au monde et on va continuer, nous, à nous différencier et surtout fuir tout ce qui ressemble à des gestions centralisées, uniformes, quel que soit le coin de France où on se trouve.
Voilà, alors Mathieu Montchalin qui dit qu'il ne croit pas à l'abandon du livre par la FNAC, mais qui clairement, on l'a entendu, saisit là une très belle occasion de mettre en valeur sa différence.
Mais malgré ses craintes, Zoé, la probabilité que la FNAC abandonne le livre reste heureusement assez mince.
Oui, alors elle ne le doit pas, ce serait mauvais pour le livre en France, mais surtout, elle n'y a pas intérêt du tout. C'est en tout cas ce qu'indique aujourd'hui Vincent Monadet, c'est lui qui dirige le Centre National du Livre, donc l'équivalent du CNC, du Centre National de la Scénographie, pour le livre. Lui, il ne croit pas une seconde à ce scénario.
La FNAC en France, j'aurais tendance à dire, c'est un acteur historique du livre et le livre est son produit d'appel. Qu'elle cherche sur un marché de l'électroménager extrêmement concurrentiel à grandir en poids en se rapprochant de Darty pour négocier avec les fournisseurs et donc tirer de meilleurs prix me paraît être une stratégie évidente dans ce qui se passe. Après, je pense que Alexandre Bompard, le PDG de la FNAC, sait pertinemment que le livre est un élément constitutif de l'ADN de sa société et que l'abandonner créerait évidemment une déception de ses clients. Je ne pense pas qu'un seul client de la FNAC vienne à la FNAC pour acheter une cafetière. On y vient pour la photographie, historiquement, l'ordinateur, le livre, la vidéo et la musique. Et ça, je pense que on ne peut pas prendre le risque à la FNAC de perdre ça. Donc je ne me fais pas de soucis pour la place du livre à la FNAC.
On pourrait même d'ailleurs probablement imaginer, c'est ce que disait Vincent Monadet, que forte démarche qu'elle va se faire en plus sur l'électroménager, la FNAC pourrait devenir d'autant plus forte et d'autant plus forte pour défendre le livre. En tout cas, on n'en sait rien, tout va se jouer dans les prochaines semaines, semaines où la FNAC va commencer à communiquer sur ces questions et surtout à mener en interne les réorganisations que son mariage avec Darty appelle nécessairement. On passe au bref, Zoé, à la Turquie et à la censure. Oui, rappelez-vous ce journaliste d'opposition turc, Can Dündar, dont on a suivi le procès ici dans le journal de la culture, la bête noire du président Recep Tayyip Erdogan. Il a échappé, il y a quelques heures de cela, à une attaque armée devant le palais de justice d'Istanbul, où il est jugé et où il enquiert la prison à vie pour divulgation de secrets d'État. Son assaillant, un homme, a tiré à plusieurs coups de feu avec un pistolet, a blessé légèrement une journaliste de la chaîne d'information NTV au mollet, avant tout simplement de déposer son arme devant les caméras et se rendre tranquillement aux policiers déployés devant les lieux. Il aurait crié « Tu es un traître et tu vas payer ». Je rappelle que le procès de ce journaliste est devenu le symbole de l'état de la liberté de la presse en Turquie, de plus en plus muselé par le président Recep Tayyip Erdogan. Un projet d'adaptation du journal d'Anne Frank en réalité virtuelle. C'est un projet du scénariste réalisateur Danny Abrahams qui l'a annoncé dans un communiqué ce mardi. Il veut tourner un film en réalité virtuelle inspiré du parcours d'Anne Frank. Un projet sensible auquel la fondation Anne Frank a pourtant donné son accord. Cela se passerait évidemment dans l'appartement et cela serait visible pendant les visites.
Trump continue d'utiliser la musique des Rolling Stones malgré leurs demandes.
Oui, je vous en ai parlé. Les Rolling Stones avaient demandé en début de semaine à Donald Trump de cesser d'utiliser leur musique dans ses meetings de campagne. Et pourtant, lors de son dernier meeting, il l'a fait. Plutôt dans la journée, il avait affirmé à la chaîne CNBC « Nous avons le droit de les utiliser. J'achète toujours les droits. Vous savez, on utilise beaucoup de chansons. La loi, en effet, n'est pas claire aux États-Unis puisque les hommes et femmes politiques n'ont pas besoin de la permission explicite des musiciens pour utiliser leurs chansons pendant leur campagne tant qu'ils obtiennent les licences globales octroyées par les associations, mais les artistes peuvent demander d'intervenir sur certains morceaux.
Sur France Culture.
La vie est courte, les délices, c'est du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Les sœurs collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment, c'est drôle. Ma philosophie est un insol, ouais. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys.
Bien là le style des bas.
Bad Boy de Marseille, chanté par Ayam et la Funky Family.
Sur France Culture,
et avec la complicité de Florian Emilio Siri, qui avait signé à l'époque le clip très French Connection, qui d'une certaine façon annonçait The Wire, la série culte américaine. Vous êtes avec nous aujourd'hui, Florian Emilio Siri, pour une autre série, Marseille, dont vous êtes le showrunner et le réalisateur de nombreux épisodes. C'est la première série de Netflix en France. Là, on entend parler des Bad Boys de Marseille, ces mauvais garçons, ces voyous, ces canailles. Il y a vraiment au cœur de cette histoire une canaille, un bad boy, un ambitieux, c'est oui. Benoît Magimel. Vous oui. en disiez un tout petit mot tout à l'heure, mais je pense que c'est le moment de parler de son personnage, ce Barès que lui, Magimel, présente comme un personnage pasolinien.
Oui, oui, parce qu'il est prêt à tout, comme il dit, pour arriver au pouvoir, en fait. C'est vraiment le salaud de la série. Puisqu'au départ, il est très intégré dans la famille du maire, donc de Depardieu, de Robert Tarot. Et puis, il va le trahir durant une élection, et vraiment de manière assez forte. Et en fait, dans la série, on se rend compte qu'il a vraiment une haine terrible contre ce mec, qui pendant 15 ans a été, je le dis, il est rentré dans sa famille, et puis, et on va voir, et il est prêt à tout. Il est prêt à tout.
Et c'est votre double, Benoît Magimel ? C'est votre côté salaud, à vous ?
Dans mon premier film, il jouait un Polonais mineur qui est...
Votre père est mineur.
Dans une usine qui ferme, c'était ça.
C'est une mine, oui, une qui mine va qui ferme avec Bruno Puzzulu, qui jouait un mineur d'origine italienne. Non, oui, j'adore Benoît. On a grandi ensemble avec Benoît. Voilà, on s'est connus, on aime le cinéma, on a grandi ensemble. Il m'a appris sur les acteurs, je lui ai appris sur les réalisateurs, enfin sur le cinéma un peu gentiment, mais bon voilà, et on a grandi ensemble, et voilà, je trouve que c'est un acteur extraordinaire, et je le dis en grand, avec un regard de professionnel, en plus d'être mon meilleur ami, mais je trouve que c'est un acteur rare, voilà.
Jean-Pierre Darroussin, vous êtes, on en a parlé, l'acteur évidemment qui accompagne Robert Guédidi depuis 30 ans. On va y revenir avec Les Neiges du Kilimandjaro tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne aussi sur votre personnage, donc de Duflo, directeur du Bureau des Légendes dans cette saison 2. On parlait de Pasolini chez ce Benoît Magimel qui est le méchant de la série. Vous avez du flegme, de l'autorité, de la douceur. Mais qu'est-ce que vous lui avez donné d'autre, vous qui aimez, dans le métier de comédien, montrer les faux-semblants des personnages, ce qu'ils cachent dans le jeu social? Qu'est-ce qu'il a d'autre? Est-ce qu'il a un peu de Machiavel ? Est-ce qu'il a un peu de Shakespeare, ce personnage de Duflo ?
Il doit avoir beaucoup de vivacité. On a le jeu d'échecs est quelque chose qui est très, très proche de l'univers d'Éric Rochant. C'est-à-dire que le créateur de la série, celui qui est le showrunner de la série et qui est aussi l'auteur de la série. Donc il y a beaucoup de casquettes sur ce travail. Il les a toutes. Et c'est vrai que avoir accumulé énormément de connaissances, avoir vraiment une somme de savoir et circuler très rapidement au milieu de tout ça, savoir les cuisiner, ces connaissances, pas être uniquement là pour absorber les choses, mais aussi savoir les cuisiner et savoir être efficace très vite, c'est ce qu'on demande à ces personnages-là. Et moi qui suis habituellement, comme vous disiez tout à l'heure, plutôt un rêvasseur, dans mon naturel, comme ça, j'essaie de prendre un peu de distance, de pas répondre tout de suite, de ne pas être, au contraire, celui qui est, voilà, de faire un petit pas de côté, un contre-pied, des choses comme ça. Je suis plutôt là-dedans. Là, il faut, c'est le contraire. Il y a aucun contre-pied à faire. Il faut être dans la réaction immédiate et dans le. Et donc ça, c'est une partie de moi que j'avais pas totalement
On voit votre visage.
Un côté obscur d'ailleurs. Côté obscur de la force.
Oui, enfin, en tous les cas, c'est forcément, on essaye d'être assez complet quand on fait ce métier-là. On essaye d'emmagasiner beaucoup de possibilités, puisqu'il faut en avoir quelques-unes dans sa besace pour être à même de circuler pendant longtemps dans ce métier. Donc voilà, c'est ce truc-là de je fais quelqu'un à qui on n'a fait pas. qui est rapide dans son jugement, dans ses réactions, dans ses prises de décision. C'est quelque chose d'intéressant pour moi, vraiment quelque chose d'aigu, un personnage qui est un peu plus aiguisé que ce que je peux faire d'habitude, qui est moins dans les rondeurs, voilà.
Bonjour les inconnus.
Tu me parles?
Non, rien.
Qu'est-ce que tu dis?
Je me demandais qu'est-ce qu'on aurait pensé de nous assis là, comme ça, sur une terrasse, en train de boire un coup au soleil couchant.
Qui ça?
Nous. On aurait pensé quoi de nous? Hein? Tu t'imagines, 30 ans en arrière, passer dans la ruelle, lever la tête, et voir deux quinquagénaires, l'air paisible, en train de siroter, de cracher leur noyau par-dessus la balustrade. Qu'est-ce qu'on se serait dit à propos d'eux?
On les aurait traités de petits bourgeois.
On est des bourgeois.
Les neiges du Kilimandjaro, inspiré du poème de Victor Hugo, Les pauvres gens. C'est votre 17e film avec Robert Guédiguian, Jean-Pierre Daroussin. C'est sorti en 2011. Ça se passe dans le milieu des Dockers, sur le port de Marseille. Vous êtes Michel, un vieux militant CGT. Et en voyant cet extrait avec Aaron Naskari, j'avais envie de vous demander si ça vous arrive parfois, vous, de vous regarder d'un œil extérieur comme ça, de vous surveiller pour savoir si vous n'êtes pas devenu un petit bourgeois.
Oh, bien sûr que je me surveille, que je regarde quelle tendance j'ai pris. Bon, j'ai quand même un peu la chance d'avoir des vies justement multiples et des rebondissements dans mes propres scénarios. J'ai un peu la chance d'être l'animateur de ma propre vie, de ne pas tellement confier ça, de pas confier mes déshérences à des animateurs extérieurs. Donc c'est peut-être pour ça dire que j'ai pas le temps de regarder les séries, parce que je suis un petit peu toujours occupé à avoir des projets, à faire des choses, à regarder ce qui se passe autour de moi. Est-ce que je suis devenu un petit bourgeois?
Ou est-ce que vous vous surveillez sur cette
petit,
pente?
Petit, je ne sais pas. Est-ce que je me surveille?
Un grand bourgeois, alors vous menez contre
Non, j'ai pris l'option d'être un privilégié, c'est vrai. Alors, je ne me sens pas bourgeois et je me sentirai jamais bourgeois parce que je n'ai jamais prétendu à quoi que ce soit. Donc c'est alors que je pense qu'une des définitions pour moi de la bourgeoisie, c'est ça, c'est que c'est des gens qui naturellement prétendent, alors que moi je me contente, je ne prétends pas.
Il semble, Florian Emilio-Siri, qu'il y a aussi une forme d'embourgeoisement, je dirais matériel, de votre cinéma, entre Une minute de silence, votre premier film, même Nid de guêpe, que vous avez fabriqué de façon très serrée, très tenue, mais avec un petit budget, jusqu'à cette première série française produite pour et avec la complicité de Netflix, Marseille. Et pourtant, qu'est-ce que vous gardez de rappeux, de punk, puisque vous étiez un grand amateur non seulement de punk, mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous gardez du poète aussi? Vous écriviez des poèmes.
Oui, j'écrivais des poèmes, c'est vrai. J'ai commencé par faire de la bande dessinée à 10 ans. Après, j'ai écrit un peu des poèmes, c'était bizarre, quoi, voilà.
Et votre côté punk, alors, ce qui transpire malgré les moyens qui vous ont beaucoup été enviés
sur Marseille. Mais il n'y a pas, alors ça c'est un peu une légende, ça correspond à une grosse...
C'est le bureau des légendes qui fait circuler ça, alors?
Non, je pense qu'on on boxe à peu près dans la même catégorie, peut-être un peu plus, mais c'est pas... Non, c'est une série qui a été produite par un Français, et Netflix s'est mis... à niveau sur ce marché-là, je crois. Il n'a pas essayé de, tout d'un coup... moi, j'ai pas eu le sentiment, en tout cas, d'avoir beaucoup d'argent pour faire... j'ai fait un film américain avec Bruce Willis. Là, j'avais l'impression d'avoir beaucoup d'argent. Mais, en fait, ils en utilisent beaucoup pour rien. Hein. Sinon, quand j'ai fait L'ennemi intime, on a fait un tout petit film qui a coûté 6 millions. C'est beaucoup, mais à l'époque... Voilà, pour faire un film sur la guerre d'Algérie, qui est un vrai film de guerre. Non, moi je suis les projets, je vais où vont les projets, où vont les films. J'adore faire des petits films, j'aime ça. C'est vrai qu'on m'a proposé... J'ai fait la série Marseille, j'avais un très gros projet sur la bande à Bono, que je vais faire depuis 15 ans. J'étais très près de le faire, j'avais Mathias Chenard, Bérénice Bejo. On était à 2 mois de la préparation et le projet s'est arrêté, comme souvent au cinéma, hélas. Parce que, voilà, film d'époque, un peu cher. Le cinéma en ce moment, il y a de moins en moins d'argent. Donc pour des projets ambitieux, c'est plus compliqué. Et du coup, cette série était la bienvenue à un moment. Et en même temps, voilà, moi j'aime expérimenter encore une fois. Mais j'ai pas perdu ce côté punk ou rebelle. D'ailleurs, je suis toujours connecté.
Vous êtes en perfecto, hein, il faut le dire.
Non, je n'ai pas de perfecto.
Vous êtes en cuir.
Non, mais j'ai toujours connecté à mon milieu, à mes amis. Voilà, à ma cité, à mes... Voilà.
Ping-pong. La culture sans limite.
Zoé Sfez fait partie de la famille Ping-pong. Elle fait partie des sauces, elle fait partie du crew. Et oh, elle a un disque du jour, bien sûr.
Bah oui, le disque d'une jeune fille qui, elle aussi, est connectée à une forme de réalité américaine, la réalité pas si joyeuse, mais c'est assez drôle parce qu'elle l'aborde à sa manière à elle, puisque c'est le 5e album dont on parle aujourd'hui. Demi Jane White, c'est une chanteuse californienne, c'est donc son 5e album, elle en fait un par an, elle est très très prolifique. Elle a une identité très singulière, puisqu'elle a une vraie sensibilité, parfois extrême, portée par l'usage du violoncelle notamment, de sa voix très éthérée, puisqu'elle fait elle-même les chœurs, et un côté très sombre, très brut. D'ailleurs, cet album est une forme de synthèse des deux, puisqu'il se laisse écouter un peu comme un flottement, mais on a des textes qui disent l'horreur des violences policières, Laurence des violeurs contre les femmes aux États-Unis. Il s'appelle They Moved in Shadow All Together. Ils ont bougé tous ensemble vers l'ombre. C'est extrait d'un roman de Cormac McCarthy. Et on écoute tout de suite Frozen Garden. Garden, la voix d'Emily Jane White, c'est issu de son 5e et dernier album They Moved in Shadow All Together. Il est sorti donc le 29 avril et sachez qu'elle sera en concert le 18 mai à Paris au Club, le 19 à Angers au Boléro, le 21 à Bruxelles dans le cadre des excellentes Nuits Botaniques, le 22 à Lille à la Péniche et le 24 à Caen au Porto Rock Club. Et ce disque du jour nous a permis d'apprendre une information cruciale sur Monsieur Daroussin.
Mais bien sûr, Monsieur Daroussin a été dans un groupe de rock et comment s'appelait-il ?
Les Nervous Breakdown.
Tandis que Florent Emilio Seri, vous aussi, vous aviez un groupe de punk.
Ouais, on faisait du punk rock, oui.
Et ça s'appelait
Sens Interdit.
Ouais.
Ping-pong.
C'est déjà fini.
Ah, là, ça passe vite. Hein.
Merci beaucoup à tous deux. Donc, à défaut de pouvoir retrouver les bandes, les vinyles, les DAT de vos groupes musicaux
ça
de jeunesse.
Ça n'existait pas.
Bon, mais on va chercher, on hein, vous ne connaissez pas.
Vous découvrir dans vos œuvres. Vous avez détruit personnellement toutes les preuves compromettantes en bon agent secret, puisque Jean-Pierre Darroussin, vous êtes Henri Duflo dans Le Bureau des Légendes, saison 2 sur Canal+, à partir du 9 mai. Quant à vous, Florian Emilio-Siri, il faut cacher un peu les cadavres dans les placards quand on va être élu à la mairie de Marseille, comme le souhaite Depardieu et Magimel dans Marseille, disponible sur Netflix et à partir du 12 mai sur TF1.
Le ping-pong est une série radiophonique dont chaque épisode s'écrit en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aissatou Ndoye, Hélène Delis, Chloé Leblon et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. Et à la prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige et Thibaut Germez.
Comme les bonnes séries, ping-pong se pratique aussi sur le réseau interconnecté sur franceculture.fr et à réécouter pendant l'éternité et un jour. Mais quid de notre beau lundi, Mathilde ?
Lundi, un ping-pong avec le magnétophone de Beckett et les chants d'Euripide pour le comédien Jacques Weber et la metteuse en scène Emma Dante.
Il fait la dernière bande ?
Oui.
Et tout de suite, c'est pas encore, la dernière bande de Denis Podalydès de la Comédie Française.